C'est vrai que je l'avais pas encore invité parce que franchement j'aime, bon, j'aime certaines de tes toiles mais pas toutes, hein, donc mais là, compte tenu de la poésie de Stéphane Stangral, j'ai eu l'idée de t'inviter parce que j'y voyais des liens, donc qui peut-être se dévoileront plus tout à l'heure, mais Stéphane est tout à fait invité à intervenir éventuellement. J'ai trouvé qu'il y avait des liens, déjà ne serait-ce que par le titre de son livre, Méandre et Néant, déjà le noir, bon, peut-être que c'est un peu simpliste de parler d'associer le noir au néant, mais il y a aussi dans le style du livre dont on parlera tout à l'heure de façon plus détaillée, un lien avec l'épurement des toiles qui sont ici, avec juste des griffures, je dirais, qui donnent une lumière sur le noir. Donc c'était ça qui m'a incité à inviter Rebecca pour des toiles que j'ai choisies, mes préférées. Et voilà. Donc Rebecca, je suis allée la voir dans son atelier. Son atelier qui est aussi son appartement, mais c'est vrai que c'est plus un atelier qu'un appartement, je dois dire.
Ah oui, ça c'est moins compliqué.
Je ne vais pas trop dévoiler, mais c'est vrai que...
Oui,
bon, voilà.
On étouffe un peu. Bon.
On étouffe, non, ce n'est pas le terme, mais vivre dans cet environnement, j'aurais l'impression de vivre campé, moi j'aurais un peu de mal quand même.
Bon, c'est pas tous les jours,
voilà.
Facile.
Mais ce qui prouve que tu es vraiment engagée dans ta création. Donc Rebecca est également poète. C'est avec des écritures parfois variées aussi, autant que ses toiles. Donc j'ai cru comprendre que tu avais toujours fait de l'abstrait. Tu me le confirmes?
Oui, c'est-à-dire que j'ai fait du non-figuratif, parce qu'il y a du graphisme, c'est pas...
D'accord. Bah, l'abstrait, c'est pas forcément des toiles vierges non plus, je veux dire.
Non.
Quelle différence tu fais entre le non-figuratif et l'abstrait?
Ben, on ne sait pas trop des fois, mais je pense que l'abstrait, il n'y a pas de graphisme. Une toile abstraite doit pas, pour moi, le non figuratif, il y a par moments des griffures ou un coup de pinceau ou de stylo, quoi. C'est-à-dire que il y a de l'écriture.
J'aurais pas pensé à distinguer. Moi, le fait qu'il y ait des griffures, pour moi, c'était quand même abstrait. Mais bon, c'est une question de définition.
Alors, celle-ci est plus abstraite, là, c'est sur la chaise. Mais il faut dire qu'en dessous, il y a plusieurs toiles pour arriver.
Voilà, explique-nous comment tu fais alors.
Alors, j'ai une toile, par exemple, elle était bleu nuit. Non, elle est devenue toute blanche. Mais en dessous, d'un graphisme et d'une recherche de blanc, de matière, pour que ça donne un petit peu du volume. Il y a un temple hindou que j'avais fait, il est venu tout seul. Et d'un seul coup, je l'ai laissé habiter et je l'ai repeinte, j'en ai fait une autre par-dessus.
Mais tu disais que tu faisais du non figuratif. Ton temple hindou, il était. On voyait
non,
vraiment que c'était un temple hindou très figuratif.
C'est moi qui l'ai.
C'est toi qui le voyais. D'accord.
C'est moi qui le voyais après quand ça a été fini. Mais en réalité, c'était très onirique.
Oui,
et
d'accord.
Mon écriture n'est pas tout à fait onirique non plus.
Vrai.
Et j'aime, je veux dire, je suis revenue après à une structure. Parce que mes toiles, je veux dire, mine de rien, ont une structure.
D'accord.
Donc ce n'est pas comment on appelle ça, de l'art brut. Car après on reprend, je veux dire, il y a une notion intellectuelle dedans d'architectural. Ou peut-être un mot plus petit, de la sculpture par moment. Il y en a, c'est vraiment en relief. Enfin, c'est une recherche de matière que je fais. Ça
voilà,
va pas plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est la vibration.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est tout le champ vibratoire et de la lumière. Et il faut jouer toujours sur... Et de l'écriture par moment. C'est tout. Sinon, je n'ai pas de... C'est pas une peinture idéologique, je veux dire, c'est pas du tout. J'ai pas de prétention là-dessus d'idéologie ni quoi que ce soit.
recherche de la matière et les vibrations,
de la lumière.
D'accord.
Et donc il faut toujours aller, c'est tout le grand questionnement de la vie, c'est la notion, je veux dire, de l'embryon, cosmique et tout quoi. C'est des strates qui sont là, je veux dire.
Tu as évoqué le fait que tu souhaitais que ton œuvre picturale soit lisible, je dirais, entre guillemets, par quelle que soit la personne de n'importe quel pays, qu'elle a un aspect universel.
Oui, parce que c'est la richesse, justement, c'est de jouer toujours comme un syntaxe, en syntaxe sur plusieurs langues. Plus il y a des langues différentes, plus il y a un enrichissement que l'on a. Je ne parle pas seulement au niveau culturel, qui est un plus, mais il y a toujours comme une symphonie qui vous arrive. Et je trouve que l'être, je veux dire, quel que soit, s'il rentre dans ce champ de vibratoire, il reçoit ou pas cette symphonie. Voilà. Bon, maintenant, évidemment, les gens sont conditionnés par, je veux dire, les peindre, la facilité, mais ça, c'est de l'art commercial de la place du Tertre. Bon.
Toi, tu dis que tes toiles sont habitées.
Oui, parce que je suis habitée, c'est moi-même.
Toi, tu es habitée et tes toiles le sont aussi. Tu m'as parlé d'une toile qui, le soir, te regarde.
Une toile
bleu nuit, particulièrement, parce que tu goûtes particulièrement le bleu nuit. Là, on n'a pas trop d'exemples de bleu nuit.
Oui, parce que j'ai eu...
Non, exact.
Pardon, parce que j'ai fait à certains moments des toiles plus en force. Hein. C'était vraiment, je veux dire, tellurique, quoi. Les grandes forces telluriques, on les voyait. Hein. On voyait que c'était tellurique. Semi-figuratif. Hein. Les grands. Et après, cette toile, je l'ai appréciée. Parce que je voulais épurer. Je me suis dit, bon. Et plus. Je suis rentrée un soir chez moi. Il y avait juste une petite lumière, et j'ai vu que cette toile était habitée, et je l'ai regardée, et il y avait un œil que je ne savais pas, qui était pris dans la matière, dans le bleu, et il y en avait un autre, je veux dire, en diagonale, mais très abstrait. Je me suis dit, bon, l'œil est une donnée purement, je veux dire... Pardon ? Est une donnée physique, je m'entends, parce qu'il y a d'autres espèces de vie qui fonctionnent autrement. Tout ça, c'est une question également, quel est le prisme de vie également. On ne connaît pas grand-chose hein, dans tous les prismes de vie qui sont.
Et le bleu nuit particulièrement. Tu m'as dit que tu voudrais mourir devant une toile bleu nuit.
Oui, parce que on a toujours des rêves. Et je me dirais, c'est la plénitude, c'est le dernier regard que j'aurai. Mais on sait, ça c'est un peu de l'utopie. Mais c'est vrai que ça m'apporte une sérénité. Voilà. Et ça m'apporte une sérénité habitée toujours par d'autres champs de conscience. Mais c'est, il y a quelque chose, c'est serein. Alors c'est là que je dis qu'il y a on n'est pas égaux égal devant la mort parce que il y a une sérénité quoi. Quel est le dernier
oui, prisme? Tu poses la question de ce que tu vois dernier moment.
Au dernier moment, qu'est-ce qu'on voit?
Ça, c'est une question qui taraude.
Ah oui.
Ah ouais. Bon. Jean-Claude est bon connaisseur de la peinture de Rebecca. Oui, vas-y.
Oui, je voulais simplement dire que tout ce que vous avez dit est tout à fait juste et correspond bien, d'ailleurs, c'était dit par aussi Rebecca. Mais ce n'est pas venu en même temps. Elle a fait d'abord une recherche de matière, car elle est matiériste et c'est en épaisseur, c'est toile en effet, et ça joue sur des niveaux de peinture, de couleur. Et aussi, c'est une coloriste. Et suivant les tableaux, alors ça. Couleur de prédilection est dans les bleus, bleu soutenu, bleu foncé, mais c'est le bleu sa couleur de prédilection. Mais ces tableaux étaient plus strictement non figuratifs et abstraits au départ. Et peu à peu, un jour est arrivé des toiles, je me rappelle très bien quand je l'ai vu pour la première fois, ces toiles qui sont très sombres et foncées, tout d'un coup étaient lacérées des écritures sont apparues, des graphismes sont apparus, et c'est ce que vous voyez aujourd'hui qui n'a pas toujours été dans les
toiles. Non, j'allais
en parler. Ils étaient d'une autre façon, dit autrement, comme celui par exemple qui est vertical.
Voilà, bah, j'allais.
Les traits du pinceau, c'est les brossages qui remplaçaient l'écriture. Tandis que on pense plutôt, regardez les milieux là, c'est une écriture, c'est du graphisme, c'est même du graphisme. Et je sais de je connais bien le, tout ce qui est écriture dans l'art, et je sais que là, là on est en plein à autre chose. C'est un tableau qui se rapproche un peu d'un tableau qui est plus conventionnel, mais recherché et en finesse. Et en creux aussi.
Oui, tu as raison.
Il y a la façon de le. Toi, tu m'as expliqué comment tu l'as fait, ça ne m'a pas complètement convaincu. On le dirait vraiment gravé, de loin. On dirait que c'est gravé. Que ce soit en rouge, que ce soit en blanc, peu importe. Alors, je veux dire que ça s'est fait en deux temps, ça.
Non, mais ça, j'allais le dire. Hein. J'allais expliquer qu'effectivement, j'avais vu des toiles qui n'étaient pas toutes noires chez elle. J'ai vu des toiles avec du... Oui, peut-être. Des toiles avec du jaune, donc on ne le croirait pas en voyant ce qu'on voit là.
Voilà.
Il y a du jaune qui vibre avec des, effectivement des brossages gris, des alternances, des vibrations, c'est ça, je pense. Et donc c'est plutôt c'est une période plus ancienne.
Oui.
Tu as eu plusieurs phases dans ta création.
Oui, j'ai eu des grands coups de pinceau. À un certain moment, je prenais le pinceau et ça la serrait carrément. Je veux dire, il y avait une force qui était lyrique, qui était. Et effectivement, il y avait tout le. Je veux dire, il y avait des grands traits de pinceau.
Enfin, qui la serrait, t'as jamais taillé des toiles, je veux dire, la serrait pour de bon.
Non.
D'accord. Ça aurait pu.
Si j'en ai fait, parce qu'on a fait la nuit blanche et avec les ateliers d'artistes de Belleville. Il y avait 200 peintres et on nous demandait de travailler sur du blanc ou des toiles, du blanc ajouré. Alors il a fallu que je prenne une paire de ciseaux et que je les découpe pour que la lumière puisse passer au travers. Alors au départ j'avais fait comme un drap, je veux dire, où j'avais collé du collage, etc. Parce que du blanc pour faire de la profondeur, c'est pas évident quand il n'y a pas de couche de matière. Et mais c'était très joli l'ensemble. Oh là là, il y avait des angles de blanc partout, de lumière. C'était très bien exposé à la, je veux dire, à la galerie. Et donc j'ai lacéré mes toiles.
Mais sinon, bah là, c'est parce qu'il y avait une nécessité de le faire. Sinon, c'est pas dans ta...
Non. J'ai une toile qui est abîmée. Je vais peut-être faire du collage avec. Oui, là c'était pas...
Ah oui.
Mais là, c'était pas du tout dans mon
esprit d'assurer. Non, parce que ton tempérament n'est pas de détruire, je dirais.
Non.
Mais on a, malgré le côté sombre de tes toiles, tu nous as bien dit que c'était pour faire surgir la lumière. Donc ça, c'est plutôt dans un aspect positif. Et tu parles d'ailleurs de peinture dans ta poésie, très souvent. Tu parles du bleu, beaucoup, énormément. C'est un... Tu en parles très très souvent. Le livre que tu as publié, L'œuvre de sang, est habité par des encres également au trait, là, aussi violent que ce qui apparaît dans au niveau des griffures.
On peut parler d'écriture, là. Ça commence à être de l'écriture, c'est une chose distincte qui vient se greffer sur tes toiles et qui est intéressante.
C'est pas vraiment de l'écriture, je suis désolée, moi j'appelle pas ça de l'écriture.
Une
écriture abstraite,
C'est une chorégraphie que j'ai faite.
C'est une calligraphie, si tu veux, plutôt ce sens-là. Calligraphie plus qu'écriture, parce qu'on ne peut pas distinguer de mots, enfin, je veux dire, contrairement à certaines œuvres. Nous verrons tout à l'heure dans le livre de Stéphane Sangral. Donc voilà aussi du noir et du blanc, là, une œuvre. Mais là, ce qu'on voit, on pourrait croire que ce sont des lettres, ce sont des chiffres, en fait. Donc là, c'est une des relations.
C'est
le temps qui s'égrène, voilà, d'accord. C'est un décompte de... Non, c'est pas un décompte.
Parce que tout est mélangé, la géantique, etc. Mais On peut voir ça soit comme le temps qui s'écrète, parce que le livre est entouré par le temps.
Oui,
le temps
de d'accord.
On peut voir ça aussi comme le soubassement de toute réalité, on peut voir que le soubassement peut-être mathématique finalement, où tout peut se rapporter à des relations mathématiques entre les objets, qui définissent soit les relations, soit les formes, finalement. Une sorte de soubassement au monde qui serait mathématique.
Qui serait mathématique, vraiment, d'accord.
Juste avant la couche de néant, il y aura une couche de mathématiques.
Qui sous-tend la toute création, normalement, en dépit de l'aspect parfois délirant de certaines œuvres, il y a très souvent derrière une construction, une maîtrise importante de la structure. Toi-même, tu me disais que, en dépit des apparences, ce que tu fais est très structuré.
Ah oui.
Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as raconté à Jean-Claude sur la façon dont tu avais fait justement cette toile?
Laquelle?
Ben celle avec la fissure blanche. Non. Je regrette de ne pas avoir choisi plus d'ailleurs avec la fissure blanche parce que le rouge ici, ça, on ne voit pas grand-chose.
Il y a quand même une correspondance avec certains de ses poèmes où elle parle des scribes avec le calame et qui sur sa tablette inscrit un texte et c'est de cette façon, un peu à cette manière, ce tableau par exemple qui est au centre là, davantage que les autres. Donne bien l'impression qu'il y a une écriture un peu hiéroglyphique.
D'accord, mais tu nous disais tout à l'heure qu'elle t'avait expliqué comment elle l'avait fait, donc je voudrais qu'elle le dise elle-même, qu'elle en parle elle-même.
Alors déjà, c'était pour exposer aux ateliers d'artistes de la Bastille. Ils nous demandaient des formats précis. Et je crois que tu étais venu, Jean-Claude, il y avait plein... C'était dans une ancienne manufacture, un lieu très privilégié, Paul était là. Et donc, alors celle-ci, elle est venue, j'ai voulu un peu de jaune pour avoir un petit peu de lumière dans le noir, et du blanc, qui est finalement, quand je la regarde, là je suis en train de parler, et je regarde les arcs qui sont en face de moi, le blanc est finalement symphonique, il n'arrive pas comme ça gratuitement. C'est-à-dire, c'est du graphisme, et dans le graphisme, il y a une architecture musicale, je dirais. On sait très bien que beaucoup d'auteurs en musique sont des mathématiciens. Et il y a toute une architecture ou une écriture au milieu qui prend un espace en lui-même. Donc cette toile, elle est sur un fond noir, elle a un trait jaune, Et il y a du blanc comme ça qui est à la fois graphisme et musical qui habite la toile. Et la grande réussite, enfin je parle pas de réussite, mais c'est de faire que tout cet assemblage soit cohérent et il y a une notion d'espace et prennent leur place. Là, une toile pour moi est réussie quand, je veux dire, tous ces éléments sont bien là où ils sont, là où ils doivent être. Et pour une toile abstraite ou non figurative, on sait très bien que pour voir si elle est réussie ou pas, elle doit être équilibrée dans tous les sens du tableau que l'on regarde. Ça veut dire que c'est toujours une plateforme qui s'ouvre vers l'infini. Donc pas de ferme. C'est pour ça que j'aime l'hyperréaliste, hein, ceci dit, mais pour moi, ça me correspond davantage à moi-même. Alors, sinon, je ferai des montages photo.
Cette structure, tu m'as parlé d'architecture, et tu m'as dit qu'elle te rassurait.
Si je le fais, que ça doit me rassurer, sinon je ne le ferai pas. Ou alors, il faut peut-être que j'aille dans d'autres... Alors, je ne sais pas où sont les méandres, il faut peut-être que j'aille dans des chemins que je ne connais pas.
C'était une forme de sécurité.
Ben, je suis les deux. Je suis à la fois quelqu'un qui est toujours à la recherche. C'est-à-dire, je m'ennuie quand je ne découvre pas des choses nouvelles. Bon. Je me dis que les chercheurs sont les seuls à ne pas s'ennuyer dans la vie. Mais c'est vrai, leur cerveau fonctionne tout. Et ils trouvent toujours des choses nouvelles, sinon on s'ennuie. Sur l'acquis, quand on maîtrise quelque chose, c'est vrai, trop bien, on s'ennuie. Bon. Et donc il faut chercher. Mais c'est toujours sécurisant de voir que qu'il y a un graphiste qui est là, qu'il y a des éléments qui sont quand même établis. Pourquoi est-ce que l'être humain a fait de l'architecture? Il pouvait très bien s'en passer. C'est parce que ça l'a sécurisé, tout simplement. L'architecture, pour moi, est purement une œuvre, je veux dire, sécurisante de l'humain. Et les grands temples, je veux dire, j'aime beaucoup l'Égypte antique, mais c'est vraiment, quand on voit ça, c'est monumental, c'est très, je veux dire, sécurisant. L'art plus miniature, il n'y a pas une transcendance de volume. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu sécurisant toute forme architecturale. Bon, c'est comme l'esthétisme, tout ça, il y a des esthètes, il y en a, bon, il y a, dans la vie, il y a toute une palette, je dirais, d'émotions, de recherches, il y a tout.
Tu te sens en affinité avec des peintres connus?
Oui, ma grande découverte a été Artaud. Et Artaud, qui est entre parenthèses, est sous-évalué. J'ai vu qu'est à Saint-Germain, les lithos d'Artaud sont complètement sous-évalués. C'est une honte par rapport à, je veux dire, au marché de l'art. Mais ça, le marché de l'art, c'est encore autre chose. Et j'aime beaucoup le peintre, celui qui a exposé au musée d'art moderne, si je... de la ville de Paris, qui est Pollock, je ne sais pas, c'est...
Pollock? Non, Waco? Non
Celui qui s'est suicidé, qui était russe d'origine. Il a fait des grands aplats.
Roscoe.
Alors là. Alors quand j'ai vu ces immenses toiles, la vibration du jaune, du vert pour arriver après au noir, alors là j'étais vraiment en affinité. Pour là je ne me suis pas ennuyée. Ça a été vraiment, je veux dire, je me suis sentie bien. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut faire après le noir, justement?
Bah justement, du blanc, peut-être.
Tu sais pas encore ce que tu vas faire après.
Je suis en train de faire du blanc. Alors le blanc, quand j'ai sorti mes premières toiles en blanc, oh, je me suis dit, on dirait vraiment une pierre tombale. Je me suis dit, bon.
Ah bon?
Ah oui.
Le
oui.
Blanc t'évoque plus la pierre tombale que le noir.
C'est aussi le deuil, le blanc, en effet.
C'est le blanc.
Oui, dans certains pays.
Dans certains pays, c'est le blanc.
Oui, d'accord, mais bon, toutes les couleurs, le rouge aussi, si tu vas par là. Enfin, bon.
Ah, pour moi, le rouge, c'est le sang.
Oui, mais bon.
Bon, bah, enfin, ça, c'est pas du vrai rouge. Alors.
Comment ça, c'est pas du vrai rouge?
Bah,
t'as quand même des
oui, c'est ce qu'on appelle
griffures rouges. Hein,
rouge, mais qu'est-ce que le rouge? Parce que vraiment, il va falloir aller le chercher en physique, le sang, quel est vraiment la ça. Il faut faut aller dans les laboratoires pour savoir quelle est vraiment la vraie couleur du sang, etc. Parce que la peinture, ça éclate de partout. Hein, c'est comme l'écriture, hein, sur aussi. Mais bon. Donc, je ne pense pas que ce soit un rouge vraiment, et il est plus carmin que rouge, je pense, non?
Le carmin, c'est un rouge?
C'est le rouge carmin. Carmin, c'est déjà un ornemental, le carmin, hein? C'est pas un rouge primitif. Hein? Ah, je ne suis pas primaire, hein? Ça c'est sûr. Déjà, pour faire mes passages à l'âge de quotidien, chaque fois c'est existentiel, je me dis comment je vais tenir la journée. Je ne sais pas comment le petit bipède que je suis va tenir toute une journée. Bon, enfin.
C'est justement la peinture qui te fait échapper au quotidien?
C'est le défi. Ah oui,
c'est un défi. Vivre est un défi déjà.
Ah oui, vivre c'est vraiment un défi. Hein. Oui, c'est le grand problème. C'est que on a peur de vivre, on a peur de mourir également. Alors, avec ça.
On ne va pas évoquer ta biographie, simplement signaler que des événements douloureux dans ta vie t'ont conduit à écrire et peut-être peindre d'une façon plus violente que tu ne l'aurais fait sinon.
Non, je
sais pas l'expression d'une angoisse, tes toiles.
Ah non, ça c'est pas du tout de l'angoisse. Hein. Mes toiles ne sont pas du tout angoissées, sinon je les garderais pas chez, elles seraient pas chez moi.
D'accord.
Des termes, des toiles très angoissées, c'est Francis Bacon. Alors ça, je reconnais, c'est un très grand peintre, c'est un très grand, je veux dire, un très grand, oui, un grand maître, mais jamais je ne m'endormirai avec une toile de Francis Bacon. Hein. Ah non, c'est trop viscéral pour moi.
Moi si, mais.
Ah ça, c'est pas du tout viscéral. Hein.
C'est pas viscéral, non?
Non,
je sais pas. Oui, c'est peut-être un peu trop trouve pas le terme.
On peut dire que ça peut être sensitif, ça peut, il peut y avoir une certaine forme, par moment peut-être, de sensualité, mais il n'y a pas de rupture.
De
pas
sensualité, de... j'en vois pas non plus.
Non, il n'y en a pas non plus. Alors, il y a une esthète. Voilà.
Voilà, oui, c'est quand même abstrait dans ce sens-là.
Oui, je suis une esthète. Voilà. C'est encore une autre problématique qui n'est pas facile non plus. L'esthète, on sait très bien que ce sont des êtres solitaires. Bon. Malgré eux.
Ouais. Et donc, je t'interrogeais de savoir si l'art était une mise en danger. Tu me disais que non, pas du tout.
Non, je trouve que l'art n'est pas du tout une mise en danger. En art, on peut tout exprimer, on peut tout faire. Il n'y a pas de. C'est pas une mise en danger parce que le passage à l'acte, il y a un médium. C'est-à-dire entre la concrétisation de la toile ou de l'écriture, ça passe par un médium. Donc ce sont des personnes qui je sais que généralement, c'est pas du tout un danger, évidemment, il y a de l'art de propagande, ça je reconnais.
Quand tu parles de médium...
C'est de l'art politique, là, mais je ne suis pas une politique, donc je n'ai pas de l'art de propagande. Je n'ai même pas cette prétention-là.
Quand tu parles de médium, tu parles du médium à peindre, au sens comme on utilise de l'essence.
Non, non.
Tu parles de médium parce que tu te sens un rôle de prophète et que tu te sens investi d'une...
Non, parce que je pense que...
Une parole.
Je pense même si on... C'est pas ça. Je pense que même si on maîtrise très bien, et que si on maîtrise même trop bien, à une recherche de perfection, tout ce que l'on fait... Parce qu'on fait tellement de choses qu'à chaque fois, on n'est jamais satisfaite, il faut toujours faire autre chose. On veut la perfection. Voilà, j'ai un être en quête de perfection.
D'absolu.
D'absolu, oui, oui. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on en était vous dans la question?
Oh, tu sais, moi, j'improvise.
Attendez, parce que là, il faut reprendre...
Je parlais du médium, savoir
oui,
si
le médium, c'est-à-dire qu'on est habité, non seulement on est habité, mais il y a une force transcendantale qui s'empare. Moi, j'ai vu le corps fatigué, hein, ne tenant pas debout d'un seul coup, je me mettais et j'étais en train de peindre. Je ne savais pas comment je faisais, objectivement parlant. Ce n'était pas possible, et ben je peignais, voilà.
Toujours être debout, c'est ça. Être debout, toujours dans l'idée du défi et de tenir
non,
debout.
Non, c'est pas ça, c'est pas un ça. Défi, c'est que je suis... C'est quel est le peintre qui disait qu'il était chaman?
Oui, c'est l'inspiration, ça
vient d'elle. Oui, il disait qu'il était inspiré d'un seul coup quand il...
Le poète aussi.
Le poète aussi.
Certains poètes
oui, le poète aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un médium, on est médium, il y a une force... qui s'empare en nous, on ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, on est autre chose. Un petit bipède, bon, ça y est. Catherine? Non, j'entendais des bruits qui s'exprimaient.
C'est Françoise, c'est pas Françoise. Catherine.
Ah, pas.
Je crois que c'est Pollock.
C'est Pollock.
C'est Françoise.
Excusez-moi parce que j'entends par moment, ça dépend d'où vient le son. Mais là aussi, qu'est-ce que le son? Le son également est une source d'énergie.
C'est également une vibration.
Ce sont également des vibrations. Alors il y a des sons qui vous poussent. Ah oui, on peut jouer avec tout ça, ce sont des zones sonores. Ça peut vous pousser. Il y a des zones qui vous appellent à la sérénité, d'autres à l'agression. Il y a toutes sortes de.
Oui. Oui, c'est juste une impression parce que je ne suis pas du tout critique d'art. Je me demandais si on pourrait risquer la proposition suivante par rapport à ta peinture, par rapport aux glyphures, par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le rouge, puisqu'il y a eu débat sur ce point. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait dans les tableaux que je vois ici comme un lyrisme muet?
Non.
Un lyrisme muet.
Quel paradoxe.
C'est paradoxal.
Bien entendu.
C'est fait exprès.
Oui, alors... ça y est. Oui, ça c'est lyrique. Bon, on peut dire qu'il est muet, pourquoi pas. Évidemment, parce que justement, c'est pour ça que j'essaye un peu de jouer sur les superpositions de couches de peinture pour avoir, je veux dire, cette vibration, ces zones sonores, ces champs sonores. Alors, j'ai eu
Moi, ça me paraît pas lyrique du tout, mais c'est peut-être une question de définition.
Alors, oui, je reviens à la première question que me posait
Colette.
Colette, Oui, alors la question, j'ai eu des moments tragiques, comme beaucoup, beaucoup de personnes le savent. Donc, bon, il y a eu ça, évidemment, ça vous forge une autre personne, pas une personnalité, mais ça vous... ça vous donne un autre regard de l'existence.
C'est pas vos voisins passés dans Shoah. C'était comme ça qu'il s'appelait, je ne sais plus. Qui? Et c'est pas le titre de ce Shoah. Enfin, moi j'appelle ça Shoah parce que je ne me souviens plus du titre. C'était sur enfin, c'était des feuilles de papier rouge avec un très beau poème dedans. Et j'ai eu l'occasion de le lire. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non.
Je dois l'avoir dans mon esprit, mais il faut que je le retrouve.
Papier rouge, ça te dit rien? Enfin, rouge. Et oui. Non plus. Pas karma, vraiment, il me semble que c'était.
Tu parles d'une toile, hein?
Non, c'était sur papier.
Elle oui, mais enfin, une toile. Oui, elle a peint aussi de très grands panneaux sur quoi? Sur du papier?
Non, sur de la toile de jean.
La toile de jean, d'accord.
Alors c'était comme une chorégraphie, c'est-à-dire mon corps avec mes pinceaux était au milieu de la toile de jean. Elles font 3 mètres de long. Et j'étais en train, et je veux dire, je peignais avec mes pinceaux sur la toile de jean. Et je veux dire, elles sont dans mon couloir. Je ne peux pas les accrocher, c'est trop grand.
Je ne peux pas te dire, je me souviens plus bien, mais je sais que c'était des feuilles de papier comme ça.
Et puis
c'était sur rouge, c'était en noir, et c'était très graphique.
Ah oui. Bon, je recherche les.
Et c'était tragique.
Je vais rechercher dans mon esprit.
Tu m'as parlé de la façon dont tu peignais et le fait que ça procurait un plaisir, une extase. Parce que tu as besoin de transfigurer les choses.
Quand je peins, je travaille. Hein. C'est un travail physique du corps. Hein. C'est-à-dire il y a une pulsion créatrice et il y a un travail du corps physique. C'est-à-dire le corps travaille avec le pinceau. Le corps est à genoux, il est à quatre pattes, il travaille. Hein. C'est un corps en mouvance, mes toiles.
Justement ça qui fait la différence avec l'écriture, c'est beaucoup plus physique que l'écriture.
Ah oui, la peinture est plus, est plus physique que l'écriture, et donc, c'est là qu'elle est plus sécurisante, c'est-à-dire qu'elle repose un petit peu toute la zone cérébrale, parce qu'on peut penser à des niveaux sans s'arrêter. Alors, plus il y a des choses tragiques, évidemment, plus le cerveau se développe. Bon. Et c'est vrai que la peinture est plus reposante que l'écriture, parce qu'elle est physique. Donc, je dirais qu'elle est, elle est davantage dans la société. Que de l'écriture. Du reste, on sait très bien que les poètes sont maudits, enfin, je veux dire, sont presque pas vendus. En librairie, c'est pas diffusé. Il faut du nouveau roman, il faut des cinéastes pour les mettre en valeur. Bon, enfin, on connaît toute la chanson. Tandis que la toile, bon, on arrive dans une assemblée, hop, on ramène. Moi, je fais les deux, alors je peux vous dire, on ramène ces tableaux, évidemment. On est plié en deux, on souffle de partout, enfin, bon.
Oui, mais quand je peins, je pense pas. Et toi, tu penses, Fagnon?
Non, je pense pas.
Voilà, la différence, voilà. Elle est là.
La différence est là. Des fois, ouais. C'est mieux peut-être de ne pas penser. Bon, allez.
Donc, oui, donc la question de Françoise.
Il y a une certaine généralisation dans ce que tu dis. Parce que quand on pense à des tableaux comme Goya, on se demande quand même s'il y a un point d'angoisse au-dessous. Et quand il est porté par ce genre de vision. Je pense pas quand même qu'il est tout à fait tranquille en lui.
Non, mais on dit pas que les peintres de tous les temps et tous les peintres, effectivement, ont la même démarche dans ce qu'ils font. Hein.
Non, voilà,
à chacun sa méthode, et peut-être que l'époque aussi fait que on peint différemment et dans un autre esprit que quand Goya peignait.
Ou si l'on reprend par exemple Van Gogh, c'était quelqu'un qui en même temps qu'il se paye, qui peignait, se brûlait complètement.
Ça,
donc
c'est rien.
C'est pas.
Enfin,
on ne trouve pas toujours cette tranquillité dont tu parles, sauf par moment, entre parenthèses.
C'est la période moderne, ça, avec la contemporanéité. Van Gogh était impensable au XVIIe siècle.
Non, mais là, je comprends. Je veux dire, on ne veut pas. Là, je ne pars pas d'une notion de généralité. Hein. Je veux dire qu'entre les deux, pour moi, hein, c'est-à-dire, je n'ai pas de moule intellectuel. Hein. Bon, là, je suis bien. Je tiens à remettre les points sur les i. Il ne faudrait pas me traiter. Je veux dire, j'accepte les critiques, mais je ne suis pas une généraliste.
Bon. Elle critiquait pas.
Hein. Ah ben je réponds.
Alors. Oui, tiens, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure, un poème, un tout poème très court, face à un graphisme. Bleu nuit, mourir du bleu, absolu du bleu, la confiance solaire jette l'indicible sur nuit manganèse. Donc, mais. Tu nous as quand même pas dit que tu peignais de façon si tranquille que ça, enfin je sais pas, parce que quand si tout le corps s'engage dans la peinture, il y a forcément une...
Non mais je veux dire que l'écriture c'est pire.
Bon, d'accord. Bon, alors, voilà. Sinon on va venir peut-être effectivement à la question de Françoise tout à l'heure, est-ce qu'on vend ? Tu m'as dit que le peintre, bon, pour toi c'est un besoin parce que socialement, bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre, mais tu estimes que
il faut être dans le marché.
Tu estimes qu'il faut vendre.
Ah, je pense qu'il faut vendre. Avant, j'étais dedans. Maintenant, je dis qu'il faut vendre. Il faut avoir les pieds sur terre. Mais alors, il faut être dans le marché de l'art. Il faut être encore.
Oui, mais faut avoir les pieds sur terre. C'est aussi que c'est une forme de reconnaissance. C'est que pour que ton travail, tu puisses le continuer. Tes besoins que on te...
Oui,
c'est ça.
Je pense qu'à un certain stade, il faut... mais alors après, c'est encore d'autres champs relationnels, et puis c'est encore un autre milieu, un autre univers. À un certain moment, il faut arriver, à rentrer dans... Nous sommes dans une société comme, mercantile, il faut rentrer dans le mercantile. Maintenant, c'est les privilégiés qui arrivent à rentrer dans ce monde. Après, ce sont des impresarios, des attachés de presse et tout. C'est tout un travail. Moi, j'ai vu exposer avec des peintres reconnus, mais alors, c'était tous les matins, ils téléphonaient à Jacques Land, etc. J'étais dans des phénomènes de cours, quoi. Parce qu'il n'y a pas de mystère, c'est tout un milieu. Ils font que ça après.
Au-delà de l'espace, solitude du bleu, d'une sphère de vie, avant que ne vienne une mort sociétale au masque de l'humain, la scène théâtrale amplifie le geste, gestuelle trame de la parole. Tu m'as dit que l'homme était un prédateur.
Oui.
Tu peux développer un tout petit peu ?
Oui, je pense que... l'homme est un prédateur, c'est une espèce qui s'autodétruit en elle-même, déjà. C'est une espèce qui ne sait pas s'autogérer. Et le circuit économique, bien sûr, alimente, a intérêt également à alimenter tout ce côté, tout ça, quoi. Et, bon, il n'y a pas que du beau chez l'être humain, mais évidemment, j'aime la beauté. Alors, on peut dire que c'est un luxe dans un monde qui n'est pas toujours très, très lumineux d'aimer la beauté et la pureté.
Tu te définis d'ailleurs comme une esthète et une ascète.
Oui, je mène une vie d'esthète et d'ascète.
Justement, en recherche de la beauté, de l'absolu. D'accord.
C'est-à-dire, ça, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des grandes plages de solitude. Il y a des moments très forts de solitude. On sait très bien que, bon, il y a des conventions un peu.
Oui, mais quand je t'ai demandé justement si tu ne souffrais pas de solitude, tu avais l'air de dire que non.
Des fois, oui, j'en souffre.
Quand même, oui. Ouais.
Mais la solitude, elle est en nous, je pense. Moi, je pense que la solitude, en tout cas, elle est en moi. Bon. peux pas faire grand chose avec ça. Il faut bien que j'accepte.
Et sans la solitude, est-ce que tu peindrais?
Bah oui, oui, oui.
Si, tu peindrais quand même.
Ah oui, oui.
D'accord. Dans tous les cas, tu peindrais. Tu as toujours peint, de toute façon.
Oui, puis je suis une, puis quand c'est dans mon, je suis une cérébrale. Quand c'est dans mon esprit, c'est programmé dans mon esprit. C'est là.
Tu as toujours peint dès, oui. Dès quoi, l'enfance, l'adolescence?
Ah, dès l'enfance, j'ai toujours. Et puis j'ai toujours écrit. Non, mais c'était en moi. C'est comme ça. On est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur des choses. Mais on est à l'extérieur et puis ça vient comme ça. Il y a les deux. C'est toujours un phénomène un peu, ça peut paraître surréalisant au sens langage commun. Voilà.
Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des questions aussi encore?
Je ne voudrais pas empiéter sur une
diapo. Non, mais bon, moi je... Bon, là, c'est à peu près...
Avec tout ce que j'ai traversé, je pense que ma peinture est vitale. Ça me fait, je veux dire, ça me maintient. Bon. C'est moi.
Oui, tu m'as dit que l'art, c'était bien parce qu'en plus, on pouvait tout dire.
Oui, et puis, mais moi, je, oui.
Et du coup...
Mais le passage à l'art, c'est pas, je veux dire, est, oui, je dis que...
Donc avec ça, on ne tue personne.
Ah non, oui, ça c'est avec l'art, on ne tue personne puisqu'il y a une transposition. C'est pour ça que je veux dire, toute société devrait civiliser, entre guillemets, s'il y a le mot civilisé, devrait, je veux dire, donner une très grande place aux artistes. Parce que c'est pas eux qui vont aller exterminer autrui. Bon. Mais peut-être que c'est pas l'intérêt du groupe. Il faut mieux diviser pour régner. Et voilà. Et c'est là qu'intervient le pouvoir.
Suzanne?
Oui, bon voilà. Je suis là depuis un moment, je suis arrivée en retard, je n'ai pas pu voir ces peintures de près. Et alors là, je vois qu'il y a une petite toile là derrière. Et tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de réalité. Et dès que je la vois là, évidemment, je l'interprète sans doute, mais moi je vois une barque, la mer derrière, l'eau et le ciel. Est-ce que je me trompe ou eh bien ça n'a rien à voir. Voilà, c'est une illusion.
On va laisser Rebecca répondre, mais voilà. À mon avis, chacun peut voir ce qu'il veut dans une peinture.
Oui, voilà.
À partir du moment où le peintre a livré son œuvre, moi dans ce que je fais, c'est pareil, on y voit toutes sortes de choses.
C'est la plus figurative.
Il ne faut pas lui demander si c'est vrai ou pas.
En somme, c'était demandé si, à travers cette variété de toiles, ici, il semblerait qu'il y en avait une de. Au moins, très proche de la.
Oui, c'est vrai qu'elle nous a dit tout à l'heure avoir fait un jour un temple hindou. Alors là, est-ce que tu as voulu faire une barque?
Bah, je ne sais pas et je pense.
Tu vois de quelle toile il s'agit? Parce qu'elle ne se retourne même pas pour faire.
Celle-ci.
Ouais.
Oui. Alors moi, quand je l'ai fini de la faire, moi je donne. C'est à autrui de voir ce qu'il a envie de voir, et c'est la richesse d'un tableau, c'est que chacun voit ce qu'il souhaite, et heureusement, ça donne une pluralité, et c'est là que l'art abstrait n'est pas du tout. Qu'un artiste fait quelque chose, c'est pas du tout dogmatique, hein, ça n'a rien à voir avec une pensée psychorigide. Et moi, je voyais un animal marin préhistorique. D'un seul coup, je la vois, j'ai mais fait complètement. C'est surréaliste, ça. On dirait un aquatique surréaliste.
Je aquatique, dis. L'eau.
Hein? Il y a de l'eau. Oui, oui, il y a de l'eau. Et puis au milieu, on peut voir une barque comme on peut voir un poisson, un animal, je veux dire, préhistorique. Voilà. Ah oui. Et il est pris entre différents éléments de la matière.
Le pouvoir de la suggestion, quand même.
Quand il y a un animal du cétacé ou un truc comme ça, un lézard géant.
Bon, on va peut-être. Oui, Anne.
Je vois un rapport entre cette toile-là et celle-là, dans le fait qu'au niveau des griffons, là il y a un trait comme ça, là c'est pareil, on dirait qu'il y a une voile. Et au fond, là, il y a deux choses comme ça qui se retrouvent là-bas.
Ça voudrait dire qu'elle ferait des gestes, elle répéterait les mêmes gestes parfois d'une toile à l'autre.
Je sais pas. Et là-haut, il y a un trait, et bon, il y a le ciel, là, si on peut appeler le ciel. Et je vois un rapport entre ces deux tableaux. dans l'air différent.
Oui, ils sont de facture
différente. Au niveau du trait, surtout.
Je vais vous lire encore un de ses poèmes extrait de Rouen à Paris, avec ce graphisme-là qui lui fait face. La nuit semble refuge, le corps réajuste ses parcelles territoriales, je marche au silence nuit, et puis le bleu tel que le bleu, une solitude au prélude du vide, l'œil surprend le lecteur, la trame de l'existence à l'enfance, être fœtus d'une écriture. Voilà.
Alors moi je voulais remercier énormément c'est Colette Klein pour tout, la façon dont elle nous reçoit et qu'elle se prend la peine de se déplacer pour voir, je veux dire, l'artiste qu'elle présente et tout ce qu'elle apporte, qu'elle nous apporte. Et notamment son écriture que je suis en train de découvrir actuellement.
Bah merci.
Là, je suis présentée par une grande écriture. Hein.
C'est pas moi qui suis présentée aujourd'hui. Donc,
non, mais toi aussi,
Ah, ça, je suis pas en petite main.
Tu es une grande écriture aussi.
Suzanne,
ouais.
Tu voulais intervenir.
Je veux bien compléter, effectivement, je trouve que c'est très intéressant. Je regrette d'être arrivée un peu en retard, c'est pas ma faute. Et ça m'a fait mieux comprendre ces explications qui ont été données. La contemplation de ces toiles qui sont exposées me fait infiniment mieux comprendre maintenant la poésie
de Rebecca et va vous conduire à la poésie donc de Stéphane Sangral en deuxième partie. Voilà.
Ah bah je m'applaudis moi-même, ça va.
Ouais, c'est pas grave. On va peut-être faire une. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une courte pause pour ceux qui veulent voir l'étoile plus près, parce que là, c'est vrai qu'elles sont très mal éclairées. En particulier, j'ai eu tort de choisir plus, je vous disais, de griffures rouges que de griffures blanches, parce que là, on voit pas grand-chose. Donc venez les voir quand même, même si la peinture se voit de loin, venez les voir d'un petit peu plus près et on reprend dans quelques minutes. Merci.